BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est l'ambassadeur d'Allemagne en France, Niklaus Meyer-Landru. Encore une fois, merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. Surtout que vous êtes ambassadeur à Paris, encore pour quelques heures, puisque aujourd'hui, un peu plus, mais aujourd'hui a été annoncée votre nomination en tant justement délégué à l'Union européenne en Turquie. Donc vous êtes parti pour Ankara. Vous avez passé, quoi, ça fait 5 ans que vous êtes en France et que vous êtes venu plusieurs fois sur ce plateau. Beaucoup de questions à voir avec vous. On va parler plan de relance, on va parler annulation de la dette. Est-ce que c'est un gros mot en Allemagne? Et puis, je voudrais juste savoir comment se passe le déconfinement chez vous.
Le déconfinement est organisé au niveau des lenders. Donc, on a des situations un petit peu différentes des lenders où il y a eu beaucoup plus de cas, où il y a eu moins de cas. Mais la tendance va vers un déconfinement de plus en plus généralisé. La question la plus compliquée est toujours la reprise de l'école.
Pourquoi, oui, comme chez nous, hein, on voit que c'est très compliqué. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a mieux résisté sur le plan sanitaire? Nous, on pensait qu'on avait un système de santé qui était meilleur que le vôtre. Et puis, en fait, on se rend compte que quand même, même s'il faut faire toujours attention aux comparaisons, mais votre système a plutôt bien résisté. Est-ce que c'est grâce à cet homme providentiel, Christian Dorsen?
C'est peut-être aussi un peu grâce à lui, parce qu'il nous a permis de prendre conscience du danger très tôt, quand il y avait les premiers cas.
Expliquer que c'était un virologue et chef de l'hôpital à Berlin.
Donc en janvier, il a tiré en quelque sorte les sonnettes d'alarme et l'Allemagne s'est mise très tôt à produire par exemple des tests, ayant la possibilité avec une capacité industrielle qui le permet et les laboratoires en nombre. C'était important. Il y avait aussi un peu de chance. Le virus en masse est arrivé plus tard en Allemagne que dans d'autres pays. Ça permet une meilleure préparation. On avait plus de lits soins intensifs dans les hôpitaux au début de la crise que d'autres pays, ce qui a permis d'affronter peut-être un peu plus sereinement la situation. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont permis de... Mais bon... Globalement, c'est pas encore fini et un bilan est à tirer peut-être dans un an.
Oui, Christian, vous avez raison de le souligner aussi. Il y a eu un outil industriel qui tout de suite s'est mis en place sur la production, notamment de tests et des masques. Vous dites que ce n'est pas encore fini. Il faudra tirer les enseignements. Il y aura des commissions d'enquête en Allemagne ou pas?
Pour le moment, il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire qui est annoncée. Mais il y aura forcément des retours d'expérience à faire au niveau gouvernemental avec les différents acteurs, entre les lenders, pour voir ce qui a marché et ce qui a peut-être moins bien marché.
Alors pendant ce temps-là, il y a au moins quelque chose qui a un peu bougé, c'est l'Europe, et avec ce plan de relance européen de 750 milliards d'euros, et puis le couple franco-allemand qui a été très moteur, notamment grâce à vous, puisqu'on sait que vous êtes proche d'Angela Merkel et vous travaillez très bien avec l'Élysée. Est-ce que la souveraineté de l'Europe est un mot qui fait tilt chez vous et en Allemagne? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas?
Ce n'est pas nécessairement le mot, mais c'est le concept qui est derrière. Donc, l'idée que l'Europe doit être en capacité d'agir ensemble pour affronter les grands défis du temps moderne, le climat, la transformation industrielle, numérique, les crises sanitaires, ça c'est quelque chose que nous partageons complètement. Est-ce qu'on discute ça en termes souveraineté? Peut-être un peu moins, mais l'objectif est partagé.
C'est ça, oui, ça veut dire en termes diplomatiques, en fait, le mot souveraineté, ce n'est pas un débat en Allemagne.
Non, parce que le mot souveraineté, après ça, vous rentrez dans des considérations d'État. Est-ce qu'il y a un peuple? Est-ce qu'il y a une
Oui, mais chez nous, c'est un vrai débat. Au contraire, chez nous, on pousse. Oui.
Donc, est-ce qu'il y a... qu'est-ce qui est la définition de souveraineté? Nous serons peut-être un peu plus... un peu plus de retenue à l'utilisation du mot souveraineté, mais on partage beaucoup des objectifs que le président français, le ministre de l'économie français... pousse quand il utilise cette terminologie.
Est-ce que ce fameux plan de relance qui a été vécu en tous les cas par le coup franco-allemand comme une avancée extrêmement significative pour l'Union européenne, peut-être voire pour la souveraineté de l'Europe, plan de relance 750 milliards d'euros, on le disait. Est-ce que c'est un montant suffisant à vos yeux?
Ben, il faut d'abord voir ça en combinaison avec les autres moyens européens, parce qu'on a déjà mis en place un paquet de 500 milliards pour parer à l'immédiat au niveau européen. On a des programmes nationaux très importants, allemands, français et autres. Donc pour répondre à la crise, l'Union européenne a mobilisé des montants vraiment exceptionnels dont nous pensons qu'effectivement avec ça, il faut faire maintenant bon usage pour activer et pour relancer l'économie.
Comment est-ce qu'on a réussi, comment est-ce qu'Angela Merkel a réussi à convaincre les Allemands, parce qu'il y avait tout un débat, parce que ce plan de relance, il est porté, je le disais, par la France et l'Allemagne, et donc il y a un endettement européen. C'est la première fois. On voit bien qu'il y a certains pays, ce qu'on appelle chez nous communément les frugaux, qui sont l'Autriche, les Pays-Bas et d'autres, ne veulent pas de ce plan de relance, même si, visiblement, il va être adopté. Les Allemands l'ont accepté.
Ce qui est important pour nous, ça, c'est que ça se fait dans le respect des traités, en respectant les droits des parlements nationaux, que c'est donc fait à l'intérieur d'une décision européenne qui, après ça, habilite les institutions européennes d'engager ce moyen à travers les programmes européens.
Oui.
Donc, de le faire à travers le niveau européen est tout à fait envisageable. L'ampleur est due à la crise. Donc, l'Allemagne a bougé en vue de la crise qui a frappé tout le monde sur l'ampleur, sur la nécessité au niveau européen comme au niveau national. Et nous avons trouvé une manière de la mettre en place qui respecte les droits des parlements nationaux, les règles européennes, ce qui est pour nous un élément très important.
Oui. Est-ce qu'il a fallu tordre un peu la main à vos compatriotes ?
Vous avez vu que la réaction en Allemagne était très positive. Il y a eu quelques voix dissonantes,
oui.
Mais moins qu'on aurait pu s'imaginer. Je pense que l'opinion publique voit qu'il y a une mobilisation de moyens importants au niveau national et comprend qu'il y a besoin d'une mobilisation aussi importante au niveau européen, comprend que la pandémie a frappé tout le monde d'une manière indiscriminée. C'est pas mm-hmm. Et on a même vu des personnalités qui étaient très critiques de l'activité de la chancelière par le passé, comme Friedrich Merz, louer son programme dans les interviews en Allemagne. Donc le soutien est plutôt large et fort.
Friedrich Merz qui est appelé à des grandes fonctions, Friedrich Merz, non ?
Oui, exactement. Mais ça veut dire aussi que la chancelière, aussi avec la gestion sanitaire, a aussi retrouvé une autorité importante dans le pays, dans laquelle les gens lui font confiance aussi à cette dimension de relance économique.
Oui, c'est sûr que ça a remis en selle la chancelière allemande, cette crise sanitaire. Donc ça, en tous les cas, ça éloigne un tout petit peu une nouvelle crise politique, on peut dire ça comme ça. Niklas Meyer-Landru, il y a beaucoup de questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu l'envers du miroir. C'est de savoir quelle est la réaction en Allemagne par rapport au sujet qu'on a ici en France et à Paris. Est-ce que l'annulation de la dette, on voit bien que ce sont des centaines de milliards qui ont été dépensés ou qui vont être dépensés face à cette crise sanitaire. Donc maintenant, ça devient une crise économique. Est-ce que c'est un débat en Allemagne ? Ici, on ne parle quasiment que de ça en disant oui, c'est possible, non, c'est pas possible, on peut le faire, mais ça va se reporter sur la génération suivante, non, pas du tout, on peut l'effacer. En Allemagne, est-ce que c'est un débat ?
Non, le débat allemand, c'est comment et dans quelles conditions, à partir de quand, on va rembourser.
Oui, d'accord, oui.
Et c'est important. Et annulation de dette, question de dette, est un sujet par rapport aux pays d'Afrique, par rapport aux pays les moins développés, qui sont aussi frappés, où effectivement, il y a eu des initiatives au sein des G20 pour des annulations de dettes. Mais ça se situe dans un autre cadre.
D'accord. Donc pour vous, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est même pas un non-sujet. C'est impossible, visiblement. Donc quand on est tous en train de réfléchir à cette question en France, vous dites, ce n'est pas un sujet.
On permet, dans une situation exceptionnelle, à la Commission de lever des fonds d'un montant quand même très important. Donc la question qu'il faut, à laquelle il faut répondre, c'est quelle est la manière de la rembourser et à partir de quand et dans quelle proportion.
Oui, on voit quand même que le clivage reste extrêmement important. Justement, aujourd'hui, il y a une conférence de presse de Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne, et de Thierry Breton, commissaire européen, sur les questions de concurrence. L'idée, c'est de dire qu'il faut que l'Europe arrête d'être naïve face aux ambitions chinoises, aux ambitions économiques chinoises. Est-ce que l'Europe doit se protéger des ambitions économiques de la Chine ou d'autres partenaires?
Oui, et là, l'Europe se défend déjà de mieux en mieux depuis une prise de conscience il y a un an et demi. On a parlé de la Chine comme concurrent stratégique. Il y a des décisions qui sont prises au niveau national pour limiter les possibilités d'investissement dans les secteurs stratégiques. Et pour la présidence allemande qui commence le 1er juillet, la question chinoise est importante. On avait voulu à l'origine organiser un sommet au mois de septembre, ce qui n'est à ce stade pas possible, mais nous souhaitons l'avoir vers la fin de l'année pour justement traiter avec les Chinois les questions de protection d'investissement, de questions de règles d'origine, donc l'indication géographique, des marchés publics. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous pensons que entre l'Union européenne et la Chine, il y a un nouveau équilibre à trouver.
Oui, donc c'est un sujet important pour les Allemands cette fois, pour le coup. Oui.
Oui. Y compris pour l'industrie allemande, et c'est un sujet majeur.
Oui. Parce que il y a tout le débat d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des aides ou des prêts garantis qui ont été attribués en France, à Air France, mais aussi à Lufthansa en Allemagne, oui. Les prêts à Renault. Donc ce sont des aides publiques qui sont liées à cette crise. Mais vous avez déjà des concurrents étrangers qui disent que ce sont des aides publiques qui sont interdits par la Commission européenne. Est-ce que, c'est, à votre avis, il faut clarifier cette situation?
La Commission a, et ça c'est dans les premiers éléments de réaction de l'Union européenne à cette crise, modifié, assoupli ses règles d'aide d'État. Ce qui était la précondition pour que les programmes de soutien nationaux n'aient pu être mis en place. Mm-hmm. Donc tout programme d'assistance Renault, à Lufthansa et à France, est notifié auprès de la Commission. Et pour le moment, ces plans sont approuvés, acceptés par la Commission dans ces circonstances. Mais ces règles-là aussi, peut-être dans 2, dans 3 ans, seront à nouveau, reviendront vers la normale. C'est quand même une situation exceptionnelle.
D'accord, donc ça doit rester une situation exceptionnelle. Mais en même temps, vous avez des Chinois, des grandes entreprises chinoises, on ne va pas tous les nommer, mais qui viennent justement sur le marché européen et qui, elles, sont largement aidées par des aides publiques chinoises. Donc c'est peut-être là où il faut arrêter d'être naïf.
Oui,
Niklaus Meyer-Landru.
On demande à la Commission de revoir ses règles de concurrence, de revoir si dans les règles de concurrence, les aides d'État tiers ne doivent pas être prises en considération beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Nous prenons en compte les aides d'État en nos entreprises européennes, mais pas nécessairement dans la même proportion pour un pays étranger quand il investit. Donc tout ça, il faut effectivement le moderniser, l'adapter à l'attitude, à l'action de nos concurrents.
On voit que c'est un sujet qui est en train de s'enliser avec la crise sanitaire qui complique la donne, les négociations autour du Brexit. On a vu Michel Barnier qui négocie, négociateur européen, dire les négociations, elles s'enlisent, il n'y a aucune proposition du côté anglais. Et puis Ursula von der Leyen est allée justement hier en Grande-Bretagne, elle a rencontré Boris Johnson, ils ont tous dit qu'il fallait essayer de trouver une solution. De toute manière, il n'y aurait pas de négociation après le 31 décembre. Est-ce qu'en Allemagne, c'est quoi la position par rapport au Brexit? Est-ce qu'il faut être ferme, faut tenir? Comment est-ce que vous réagissez?
Il faut être ferme sur le marché commun, il faut être ferme sur les règles de ce qu'on appelle level playing field, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale de la partie des entreprises britanniques parce qu'ils ne sont plus soumises aux mêmes règles que les nôtres. Il faut néanmoins essayer de trouver un accord. Moi, je ne pense pas personnellement que l'heure ou le clock s'arrête avant l'été. On va avoir encore le mois de septembre, on va encore avoir le mois d'octobre. Donc...
Mais est-ce que de l'autre côté, ils jouent le jeu? C'est-à-dire que Michel Barnier dit qu'il n'y a aucune proposition du côté britannique. Donc il y a un moment, il faut peut-être arrêter la cloque, comme vous dites.
Mais nous avons négocié avec le côté anglais, avec Johnson en personne, une déclaration politique qui décrit les paramètres dans lesquels nous voulons nous mettre d'accord. Pour le moment, nous trouvons que les positions anglaises ne reflètent pas cette position commune qui avait été adoptée. Donc, nous attendons que l'Angleterre revienne vers ses bases communes qu'on avait jetées il y a un an. Donc, on soutient pleinement le négociateur européen.
Mais donc, vous êtes prêt à dire, OK, s'il n'y a pas d'accord, vous voulez un accord, mais s'il n'y a pas d'accord, tant pis.
On veut un accord, c'est trop tôt de dire qu'il n'y en aura pas d'accord. Mais ça devient, de mois en mois, de plus en plus compliqué.
Quelle est votre vision, et quelle est la vision allemande de l'Europe? Est-ce que, là, il y a le budget européen qui est en train d'être négocié, 2021-2027. Est-ce qu'il doit être plus important? Est-ce qu'il doit aller plus loin, justement, dans les coopérations au sein de l'Union européenne? Et derrière, un peu, quelle est la vision, est-ce qu'il y a une nouvelle vision de l'Europe de la part des Allemands, de la part de votre part?
On est peut-être en ce moment dans un moment où on est plutôt orienté par le pragmatisme. Nous voulons faire ce qui est nécessaire au niveau européen pour sortir de cette crise, ce qui mobilise déjà toutes les forces et toutes les ressources. Si vous voyez qu'avec les régimes de réunions qu'on peut avoir aujourd'hui à Bruxelles avec visio et peu de réunions en présentiel, on arrive à avoir à peu près 10 à 30% des réunions qu'on a habituellement. Donc il y a un vrai besoin de se concentrer dans cette présidence allemande qui vient sur la mise en place de ces décisions pour qu'elles puissent devenir effectives le plus vite possible. Après, on peut parler vision.
D'accord, mais ça veut dire que est-ce qu'il faut trouver un peu comme ce plan de relance qui est vraiment une pierre importante, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être pragmatiste, c'est-à-dire que l'Europe de la défense, on peut la créer entre deux trois pays membres? Est-ce qu'on revient à l'Europe avec des cercles comme l'avait préconisé Jacques Delors?
On a un cercle qui est
la zone euro.
C'est la zone euro. En matière de défense, vous avez des programmes de coopération d'armement entre la France et l'Allemagne qu'on a maintenant ouverts en partie pour l'Espagne et pour d'autres pays qui sont extrêmement importants et qui vont être un socle pour une industrie de défense européenne dans la perspective. Donc il y a beaucoup de choses très importantes qui sont en train de se mettre en place. Les Allemands sont peut-être un peu plus réservé à donner à tout ça des très grandes ambitions, mais préfère le faire.
Oui, d'accord. Donc l'Europe à plusieurs vitesses n'est pas un concept européen aux yeux des Allemands.
Mais non, parce qu'on voit là dans cette crise économique, on voit bien que la relance économique doit se faire à 27, parce que nos économies à travers le marché sont tous imbriquées. Si je fais une relance entre deux ou trois pays, Ça ne marchera pas. Les chaînes de valeur sont multiples et à travers l'ensemble du marché. Donc c'est le marché qu'il faut faire fonctionner et faire repartir.
Il y a une décision cette fois-ci qui est plus sur le plan géopolitique, diplomatique. C'est une décision prise par Donald Trump, un peu par surprise, d'enlever du territoire allemand les soldats américains.
En partie.
Pourquoi ça suscite un tel débat? Pourquoi est-ce que vous avez encore besoin de soldats américains sur votre territoire?
Parce que l'Alliance transatlantique, le lien qu'il crée avec les États-Unis est d'une importance fondamentale pour la sécurité et pour l'ensemble des équilibres dans le monde. Et une grande partie des bases américaines en Allemagne ont une utilisation qui va bien au-delà de l'Allemagne. C'est des plateformes pour l'action de l'Alliance aussi à l'extérieur de l'Union européenne ou de la
Paix européenne. Mais enfin, quand on voit les relations assez épouvantables, moi je peux le dire, entre Angela Merkel et Donald Trump, on se demande si c'est...
Mais pour nous,
il y a de quoi regretter cette décision.
Notre ministre de la Défense disait, pour nous, la sécurité, ce n'est pas un bien commercial. C'est une valeur fondamentale.
Symbolique presque.
Qui doit tenir et qui, au-delà d'une question de simple commerce.
D'accord. Non, c'est voilà, parce qu'en France, on n'a pas cette même problématique. Donc, évidemment, on n'a pas la même histoire. Nicolas Meyer-Landru, je disais, ambassadeur depuis 2005 d'Allemagne à Paris, en France. Et donc maintenant, nomination aujourd'hui en tant que délégué de l'Union européenne. En Turquie. Vous allez faire quoi là-bas? Vous allez négocier, l'entrée de la Turquie au sein de l'Union européenne, relancer les négociations?
D'abord, je suis très curieux de découvrir un grand pays, un beau pays, et un pays important pour nous tous, un voisin, un allié. Et après, je vous concède qu'il y a beaucoup de sujets importants, sensibles, et qui vont demander beaucoup de diplomatie.
Oui. Remarquez, là, on voit déjà que vous connaissez bien. Il faut relancer des négociations ou c'est quoi?
Il y a eu une rencontre entre la présidente von der Leyen et le président Erdogan en mars, où il y avait eu une volonté de voir comment on peut faire prospérer ces relations. Le représentant européen, M. Borrell, et le ministre des Affaires étrangères sont chargés d'un dialogue pour voir ce qui est possible. Dans les dernières semaines, dû à la crise sanitaire, ce dialogue n'a pas encore vraiment démarré.
Qu'est-ce que vous retenez de Paris, en conclusion?
C'est une superbe ville.
Oui.
On a vécu des moments tragiques, on a vécu des moments superbes, très heureux. Et la France est et restera notre premier partenaire.
Voilà, comme ça, c'est dit. En tout cas, on sait que vous avez beaucoup œuvré pour ça. Merci beaucoup d'avoir été ici dans les studios de BFM Business. Nicolas Meyer-Landru, donc l'actuel ambassadeur d'Allemagne en France. On connaît votre successeur ou votre successeur?
Oui, vous le connaîtrez.
Voilà, réponse diplomatique. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. On va repartir sur un débat très français. On va parler peut-être aussi un peu de l'annulation des dettes, même si vous avez dit que c'était même pas un débat dont on mentionnait l'objet en Allemagne. On parlera aussi peut-être des baisses de salaire avec notre invité Patrick Artus.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, vous le connaissez bien, c'est Patrick Artus, membre du Cercle des économistes et chef économiste chez Natixis. Et puis, quelqu'un très, très actif sur Twitter. Merci d'être avec nous, Patrick. Patrick Artus, vous étiez venu, du reste, il y a quelques semaines, nous présenter votre dernier opus sur 40 ans d'austérité salariale. Comment en sortir? Il faut préciser que ce n'est pas en France, les augmentations de salaire. Ça peut éventuellement aux États-Unis, mais vous dites qu'en France, ce n'est pas la peine. On va y revenir. Il y a beaucoup de thèmes que je voudrais traiter avec vous aujourd'hui, ou deux questions du moins. Mais d'abord, je ne sais pas si vous avez entendu l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, donc Nicolas Meyer-Landru, qui est très proche d'Angela Merkel, qui a aussi travaillé beaucoup avec les équipes d'Emmanuel Macron. Lui, quand on parle de la dette, est-ce qu'il faut effacer la dette liée au Covid? Est-ce qu'il faut... la Banque Centrale Européenne doit sortir son crayon et sa gomme? Ils disent, mais c'est même pas un débat chez nous, ça n'existe pas. De toute manière, les effacements de dette, c'est plutôt pour des pays en voie de développement, comme en Afrique, qui n'ont pas les moyens de rembourser cette dette. C'est quand même très étonnant de voir la fracture qui existe entre la France et l'Allemagne.
Oui, ça prouve qu'il faut encore faire de la pédagogie. Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'économistes qui suggèrent d'annuler les dettes détenues par la BCE. Ce qui serait une bêtise sans nom, parce que c'est une annulation de la dette. Supposer que l'État français annule la dette qui est détenue par la Banque de France pour le compte de la BCE, eh bien, l'État français est en défaut. Et c'est la panique sur les marchés financiers.
Oui, mais là, ça ne serait pas le cas.
Non, mais donc il ne faut pas annuler les dettes détenues par les banques centrales. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la BCE achète de la dette publique, en ce moment, la BCE achète, je dis la BCE, mais pour nous, c'est la Banque de France, pour les citer la Banque d'Italie, mais enfin, disons BCE. Si la BCE achète en ce moment toutes les dettes publiques émises par les pays et si elle les garde dans son bilan, ces dettes sont de fait annulées. C'est comme si elles étaient annulées. Donc, on ne va pas s'ennuyer à les annuler pour de vrai, alors qu'elles sont annulées.
Pourquoi elles sont annulées? On a parlé avec Aurore Laluc, justement, c'est 2320 milliards. Bon.
Mais elles sont annulées parce que, je prends l'exemple de la France. Oui, la France a fait un déficit, émet de la dette. La dette est achetée par la Banque de France. Oui. La Banque de France rend ses profits à l'État français. Oui. Et donc, quand l'État français verse des intérêts à la Banque de France sur la dette qu'elle détient, la Banque de France les rend à l'État. Donc la dette, elle est gratuite. Et si la Banque de France garde cette dette dans son bilan et ne la ressort pas de son bilan, elle n'a jamais à être remboursée. Donc une dette non remboursée et gratuite, ça n'existe pas. Il faut comprendre que la Banque de France, c'est l'État. Donc on peut regarder ensemble la Banque de France et l'État. Les obligations de l'État français détenues par la Banque de France, c'est de la dette de l'État vis-à-vis de lui-même. Hein, donc ça n'existe pas. Bonne solution, c'est que la BCE, qui s'est engagée pour l'instant à le faire jusqu'à la fin de 2022, s'engage sur une période plus longue à garder dans son bilan les dettes qu'elle achète cette année, l'année prochaine, etc. Ces dettes n'existent pas. En réalité, elles ont été remplacées par de la monnaie. Hein. C'est comme si là, on avait directement financé les dépenses publiques par la monnaie.
Mais oui, mais ce que j'ai envie de dire à ce moment-là, je vais être trivial, mais c'est vraiment le mot, pourquoi s'emmerder? Pourquoi à ce moment-là faire des traités sur Maastricht 3%? On crée de la dette, on met les hôpitaux, on modernise les hôpitaux,
Alors aux États-Unis, ça s'appelle...
À quoi ça sert d'avoir ce 3%, ce 100%?
Alors d'abord, quand on a écrit les critères de Maastricht, on ne savait pas que les banques centrales allaient acheter des dettes publiques et même on pensait que c'était interdit. Hein. Donc quand on dit qu'il faut que notre dette publique soit 60%, on ne fait aucune distinction entre la partie de la dette qui est détenue par la banque centrale et la partie de la dette qui est de la vraie dette et qui doit être achetée par des investisseurs s'ils ont envie de l'acheter. Donc effectivement, les traités ne peuvent pas représenter cette réalité qui n'existait pas au moment des traités. Ensuite, nous n'avons pas aujourd'hui...
Donc ils sont caduques.
Il faudrait, si on faisait
des... mais
à nouveau, la BCE a garanti qu'elle allait garder sur son bilan les dettes qu'elle a achetées jusqu'à la fin de 2022. Elle n'a pas dit jusqu'à la fin des temps. Donc si en 2023, elle revend les dettes qu'elle a achetées, là, elle les remet sur le marché et il faut trouver des investisseurs qui veuillent bien la détenir et probablement ça fait monter les taux d'intérêt. Mais si une banque centrale achète les dettes publiques lorsqu'elles sont émises et de façon irréversible, en réalité, il n'y a pas d'émission de dette, il y a de la création monétaire. Alors pourquoi on s'en prive? On s'en prive parce que la création monétaire, ça a quand même de graves inconvénients. Hein, si la création monétaire n'avait aucun inconvénient, on n'aurait aucune raison de se priver, de s'en priver.
Bah oui.
C'est ce qui s'appelle comme théorie la théorie monétaire moderne. Il y a une école de pensée qui travaillait avec Bernie Sanders aux États-Unis qui expliquait qu'il fallait faire n'importe quel déficit public nécessaire pour être au plein emploi et le financer par la création de monnaie. Comme ça, il n'y avait pas de problème de financement par la dette.
Et on se fait rattraper par la patrouille quand?
Quelle
patrouille?
Alors la patrouille, c'est plus l'inflation au sens traditionnel, on sait que ça ne marche plus depuis 40 ans. La patrouille, c'est les prix des actifs. Par exemple, on est en train de fabriquer une bulle immobilière. On va avoir une bulle immobilière. Dès qu'il y aura un peu de confiance sur la maladie, on aura une bulle sur les actions, il y aura une bulle sur les pays émergents. La patrouille, c'est les bulles. Et donc, et c'est une forme de taxe. Hein. Les jeunes paieront plus cher les appartements qu'ils devront acheter.
Déjà qu'ils sont chers.
Ils seront encore plus chers dans 5 ans parce que là, on a mis tout ce qu'il fallait. Vous créez une inondation monétaire. Qu'on est très inquiet, personne n'en fait rien de cette monnaie. Elle est gardée sous forme de monnaie. Dès qu'il y aura un peu de confiance, cette monnaie va être réinvestie, par exemple en immobilier, et on va avoir une hausse extrêmement forte des prix de l'immobilier.
Oui, d'accord. Donc on voit que c'est compliqué. Est-ce que vous pensez, parce que le président de la République, dans son intervention dimanche soir, il a dit, en fait, il faut quand même rembourser cette dette, mais à la limite, on ne va pas la rembourser en augmentant la fiscalité des revenus. On va en fait produire de l'activité, on va travailler plus, on va produire plus, et ça va permettre donc de générer de la richesse qui servira à rembourser ces dettes. Est-ce que c'est un processus qui peut marcher?
Oui, non, ça a du sens. Là, on a à l'esprit, par exemple, la nouvelle dette européenne. On espère qu'on aura ces fameux 750 milliards, que ça sera finalisé.
Oui.
Cette dette européenne, elle ne finance pas des trous dans les comptes courants des États. On ne va pas financer avec ça
c'est 30 milliards, c'est pas énorme.
Mais on ne va pas financer avec ça le déficit de la sécurité sociale ou des salaires de fonctionnaires. On va financer des investissements. Et mettez-vous même dans le cas le pire, où la BCE arrête totalement sa politique. Hein, donc, elle n'achète plus les dettes. Donc, l'Europe émet de la dette sur les marchés et finance de la transition énergétique, de l'agriculture biologique, de la santé, etc. L'Europe paierait un taux d'intérêt extraordinairement bas. Si elle se finance même à 30 ou à 50 ans, elle paierait moins de 1%. Tous ces investissements rapportent plus de 1%. Et la transition énergétique, ça rapporte plus de 20%. Investir dans la voiture du futur, ça rapporte plus de 20%. Investir dans le médicament, ça rapporte plus de 20%. Donc Macron a complètement raison. On a très mal compris cette phrase. Je ne pense pas du tout qu'il voulait dire qu'il faudrait changer les 35 heures. Il voulait dire qu'il fallait faire des dépenses publiques qui fabriquaient des investissements dont la rentabilité était supérieure au coût de la dette. Et c'est absolument ça que veut faire la Commission européenne.
Moi, j'ai l'impression quand même qu'on a complètement changé de logiciel, Patrick Artus. C'est-à-dire qu'on sort d'une période avant où on nous disait il faut une réforme des retraites parce qu'il n'y a plus suffisamment d'argent, il faut une réforme de l'assurance chômage parce qu'on a un vrai problème sur le coût, le déficit de l'UNEDIC. Je prends les exemples français, etc. etc. Et qu'aujourd'hui, on découvre que finalement, tout ça n'a pas beaucoup d'importance.
Je crois que si. Je pense qu'il y a deux distinctions à faire. Il y a un, dans les crises. Dans les crises, il est parfaitement légitime que les banques centrales monétisent tous les déficits publics, parce qu'il faut donner aux États les moyens de faire n'importe quel déficit public qui est nécessaire. Sans la BCE, on ne ferait pas 11,5% du PIB de déficit public en France cette année, et les Italiens encore moins 10%. Donc ça permet aux États d'avoir les mains libres dans les crises. Et puis dans les régimes normaux, en dehors des crises, ce qu'il faut vraiment distinguer, c'est des déficits publics qui viennent à nouveau des déficits courants de l'État. Et là, il n'y a aucune raison, ni que ça soit financé par la dette, ni que ça soit financé par la Banque centrale, et des déficits publics structurels qui viennent de politiques d'investissement, et qui peuvent être financés par la dette, et qui peuvent même être monétisés par les banques centrales de façon durable. Parce que ces déficits-là fabriquent du revenu plus tard. Donc on voit se dessiner, en fait, une régulation totalement nouvelle de la politique budgétaire en Europe.
Au lieu
d'avoir le 3%, le 0,5%, le 60% qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui, on va se dire... Bah, ce qu'on fait dans les récessions, c'est pas la même chose que ce qu'on fait dans les périodes de croissance. On a commencé, mais on n'est pas assez loin. On va se dire, les banques centrales, dans les récessions, elles permettent de faire des déficits publics indolores, mais il n'est pas question qu'elles fassent ça avec les déficits publics qu'on garderait dans les périodes de croissance. Donc, on s'en venir, si on en avait les moyens, on changerait complètement la réglementation budgétaire en Europe.
Il y a une prise de conscience, j'ai envie de dire, c'est presque la première fois qu'on en prend avec vos
propos, le déficit du système de retraite, c'est un très mauvais exemple, parce que personne ne suggère de le financer. En réalité, il ne faudrait pas le financer par la dette, ni par la monétisation par la Banque centrale.
Il faudrait le financer par quoi ?
Par les impôts. Du déficit courant. Mais par contre, si vous investissez dans la rénovation de l'habitat, là, c'est de l'investissement, ça économise de l'énergie, et là, vous avez droit et à la dette et à la Banque centrale, normalement.
Justement, il y a une étude qui montre que le niveau de vie des retraités est de 105% de celui, au-delà de 105% de celui de l'ensemble de la population qui, elle, avec la crise, les revenus, donc ils vont passer à 110% fin 2020. On a envie de dire... il faut donc taxer les retraités, non ? Peut-être une hausse de la CSG, la CSG.
Oui, j'aime pas du tout la façon de prendre ça. Il y a évidemment...
On voit que le revenu des retraités a augmenté pendant la crise...
Mais vous avez une autre solution, c'est de monter les revenus de ceux qui ont perdu, plutôt que de baisser les revenus de ceux qui n'ont pas perdu. Il y a des populations protégées. Population protégée, c'est les salariés du secteur public, les retraités, les CDI, en gros, dans les entreprises, à part les quelques entreprises très en difficulté. Et puis, il y a des personnes pas protégées du tout, c'est ceux qui finissaient un CDD, c'est ceux qui finissaient de l'intérim, c'est les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, c'est les artisans, c'est les intermittents, les saisonniers. Donc, vous savez, chez les économistes, on parle d'insiders et d'outsiders. Donc, on a des insiders très protégés, des outsiders très peu protégés.
Mais donc...
Alors, il y a une tentation française, chaque fois qu'on observe ça, c'est dire il n'y a qu'à taxer les insiders.
Ouais.
Bon, ben, il y aurait peut-être quelque chose de plus intelligent à faire qui serait de protéger mieux les outsiders. Par exemple, on pourrait étendre la protection, le filet de sécurité, comme on dit, à plus de population. Il y a des gens qui n'ont aucun revenu depuis 4 mois.
Mm-hmm.
Hein, alors que si vous êtes CDI dans une entreprise normale, au pire, vous avez eu le chômage partiel à 85%. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail. Donc je crois que la réflexion, c'est plutôt que... C'est une très mauvaise idée aujourd'hui de faire des politiques qui freinent la demande. On a fait ça en 2010-2011, on a fait rechuter l'économie. Donc ne faisons aucune politique qui freine la demande. Ce n'est pas le moment de monter les impôts, ce n'est pas le moment de baisser les salaires. Mais on pourrait envisager des politiques où on mettrait un filet de sécurité à ceux qui n'en ont pas. Un revenu universel sur les plus fragiles.
Tout le monde avait hurlé lorsque Benoît Hamon l'avait proposé en disant c'est une forme d'inconscience.
Il le proposait sur toute la population depuis la mort, jusqu'à la naissance jusqu'à la mort, ce qui coûtait une fortune. Vous pouvez le faire sur les populations qui ne bénéficient pas aujourd'hui de la protection sociale dont bénéficie la majorité de la population. On peut faire
On est quand même en train de changer tous les logiciels, les paradigmes économiques.
Non, le macronisme du début, c'était bien ça, il me semble. Il me semble que dans les déclarations d'Emmanuel Macron avant qu'il soit président, il y avait cette idée d'insider et d'outsider, et l'idée que dans le futur, on aurait de plus en plus d'outsiders, parce que les gens allaient créer leur boîte, allaient changer de métier, allaient devenir indépendants, etc., et qu'il fallait réformer la protection sociale pour qu'elle couvre aussi des outsiders. Je pense qu'on revient au macronisme, en fait, si on fait ça, hein, cette extension du filet de sécurité sociale.
Donc vous dites, c'est pas le moment de toucher à la fiscalité des hauts revenus,
normalement. C'est pas le moment de faire quoi que ce soit qui réduise la demande. Donc d'accord. Ce débat sur la baisse des salaires, il est idiot. Ce débat sur la hausse des impôts,
baisse des salaires,
idiot.
C'est autre chose. C'est dans le cadre de ces accords de performance collective.
Non, mais faisons pas ça.
Permet de pas sauver d'emplois,
Faisons ce que proposent mes camarades Philippon, Pisani, etc., qui est de dire, si une entreprise est en difficulté mais va revenir à la normale dans quelques mois, au lieu de baisser les salaires des salariés, ce qui va contracter la demande, faisons porter par l'État une partie des salaires pendant cette période de temps. C'est beaucoup plus intelligent que de baisser les salaires.
Et Thomas Philippon, qui sera mon invité demain, à ce même micro, et Jean Pisani la semaine prochaine. Vous voyez,
parfait.
Comme ça, tous vos amis seront là. Toute dernière question, la facture du Covid, à votre avis, elle était de combien ?
La facture du Covid, il ne faut pas mélanger les carottes, les navets, les torchons et les serviettes.
In fine, vous avez une note à la sortie.
Moi, je calcule un ratio. Si vous voulez, c'est trop compliqué, parce qu'il y a une mesure nouvelle par jour.
Oui.
Donc, je calcule quelque chose qui est simplement de combien on a augmenté le déficit public par rapport à de combien on a perdu de PIB. Et donc, on a à peu près augmenté le déficit public de 80% en France de la perte de PIB. Donc, l'État a couvert 80% de la perte de revenus. Et 20% a été soutenu. Aux États-Unis, on est à 130%.
D'accord.
Ce qui explique cette bizarrerie que les ménages américains ont plus d'argent aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu le Covid.
Merci beaucoup, Patrick Artus. Et je rappelle, je re-rappelle, 40 ans d'austérité salariale, comment sortir chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parle de l'image des patrons d'entreprises publiques. Est-ce qu'elle a été ternie ou pas par cette crise? On en parle avec Vincent Lavessière.
BFM Business, l'heure H. L'invité.
Vincent Lavessière, bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous, président du cabinet VKMV. Et puis vous faites chaque année, on vous reçoit du reste, une enquête, même alors qu'il est bisannuel, mais c'est une enquête cette fois-ci sur les entreprises publiques, où vous interrogez de nombreux journalistes, experts, presse française ou anglo-saxonne. Et vous faites un classement des dirigeants en fonction de différents critères. Vous allez tout nous expliquer. Juste cette enquête, vous l'avez fait avant le Covid, pendant le Covid, vous l'avez réactualisé. Comment est-ce que vous avez géré cette crise sanitaire qui a changé? On voit bien que la SNCF, c'était un peu compliqué, la RATP, c'était un peu compliqué en termes de gestion.
Alors, cette étude, je ne vais pas vous raconter d'histoire, elle a été faite avant le Covid. C'est une étude très lourde, une étude qualitative faite auprès de 180 journalistes et qui exige, pour être de qualité, d'avoir des entretiens en face à face, qui auraient été impossibles. Durant la période du coronavirus. Pour autant, je me suis livré à une étude quantitative, celle-là, notamment de présence médiatique dans les grands médias et auprès des réseaux sociaux, de chacun des patrons observés. Du coup, il est fort à parier qu'il y a au moins deux patrons dits d'entreprise publique ou assimilés qui rentreraient dans le top 10 de cette étude, à savoir Catherine Guilloire de la RATP et Stéphane Richard d'Orange. Mais le top 5, me semble-t-il, reste inchangé. Et je vais notamment vous dire pourquoi au sujet de Philippe Val, qui est le numéro 1.
Eh bien, alors, justement, oui. Alors, là, ça pose des questions, mais vous allez défendre votre enquête. Alors, on peut voir, pour ceux qui nous regardent, on voit le palmarès de votre étude avec, je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, où vous pouvez le dire, en numéro 1, allez-y.
Alors, en numéro 1, donc, Philippe Val, le patron de La Poste. Philippe Val, il avait un dilemme très clair. Il y a d'un côté, protéger ses salariés, 220 000, c'est-à-dire le plus gros employeur de France. Et par ricochet, les clients de La Poste. Puisque La Poste, c'est le seul service public à être tous les jours en contact direct avec chacun de ses clients.
Voilà, mais si vous posez la question aux Français, est-ce que La Poste a marché, la réponse, vous la connaissez, c'est non.
L'autre partie, donc... c'était de savoir s'il assumait toutes les missions de service public de La Poste. Ouais. Au nom de raisons sanitaires qui sont toutes à son honneur, il a, dans un tout premier temps, tranché en faveur de la première solution, qui est de protéger ses salariés.
Ouais, alors là, c'est vous
et
qui
ce
protégez.
Faisant, protéger et là, l'ensemble des Français.
Ouais, et là, j'ai envie de dire, vous protégez votre classement, là, parce que, Vincent, parce que Philippe Val... Donc, on va quand même le donner, le classement. Parce que moi, je trouve c'est intéressant, parce que ce sont les patrons qu'on va citer, des gens qui ont fait beaucoup bouger la chose, mais on voit bien que c'était compliqué pour eux, cette crise sanitaire. Donc, numéro 1, puisque vous ne l'avez pas donné, Philippe Val, La Poste. Ensuite,
numéro 2, Jean-Pierre Farandou, SNCF.
Oui.
Numéro 3, Ben Smith pour Air France KLM. Numéro 4, Patrice Kane pour Thales. Numéro 5, Éric Lombard de la Caisse des dépôts. Et numéro 6, Augustin de Romanet pour l'aéroport de Paris. Je voudrais ajouter sur Philippe Val, parce que c'est Éric Lombard qui m'y fait penser. Bien sûr que le coronavirus a changé la face du monde.
Oui, même
mais
pour
il
la SNCF.
Mais il n'a pas changé la face de mon étude. Qu'est-ce qui s'est passé cette étude? Elle est rétrospective. Elle porte sur tous les éléments d'appréciation.
Oui. Les critères,
qui,
déjà.
Qui se déroulent durant l'année 2019. Les critères d'appréciation. 1. Incarnation interne-externe de l'entreprise. 2. Vision stratégique et capacité à délivrer. 3. Gestion des crises. Toutes les occasions de mise sous tension de l'entreprise. Il y a eu les grandes grèves. Il faut voir que rien n'a été épargné à cette sphère publique.
Ah non, ça c'est sûr.
Pour la plupart d'entre eux, ils ont eu les gilets jaunes, la réforme des retraites, voire la réforme du statut de SNCF, et en plus le coronavirus. Donc, en un mot, on écrira plus tard au fronton de cette crise la mention suivante. On leur a demandé l'impossible, ils ont fait le maximum. Et donc, j'en reviens à Éric Lombard. Éric Lombard, c'est celui qui, avec Philippe Val, a conduit l'opération dite mandarine, le rouge du logo de la Caisse des dépôts et le jaune du logo de La Poste, pour faire en sorte que CNP Assurance soit apporté à La Poste. Pourquoi c'était important? Parce qu'il s'agit de sauver La Poste. Compte tenu du déclin inexorable du courrier, il fallait en renforcer les moyens financiers et il fallait faire en sorte que ça devienne un pôle public de banque assurance. La Banque Postale, CNP Assurance. Chapeau bas pour cette année 2019, parce qu'ils ont mené ça à bien, en composant très bien avec l'État actionnaire, sans problème actionnarial et sans problème social. Encore une fois, La Poste, c'est 220 000 personnes. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, SNCF, c'est 144 000 cheminots.
Oui.
Mais de manière générale, durant cette période de coronavirus, je voudrais dire que tous ces patrons d'entreprises publiques, ils ont été les hussards de cette guerre sanitaire, au sens historique et militaire du terme.
Ah ben voilà, si ça fait une bonne défense. Alors attendez, il y a encore beaucoup de choses. On a compris que là, vraiment, vous les défendez. Mais c'est vrai qu'en 2019, ce sont que des patrons qui ont fait beaucoup bouger leur entreprise.
C'est vrai.
Il y a la suite du classement quand même. Il y en a une justement, parce que comme son mandat est remis en cause.
Delphine
Ernotte, France Télévisions. Beau parcours là.
Alors, très très belle progression.
Et puis c'est une femme.
C'est une femme, c'est la première femme du classement. Ouais. Elle a gagné 31 places. Elle est passée de la 45e à la 14e place. Et comment l'expliquer? Première chose, elle s'est bien entourée. Elle s'est représidentialisée avec un Premier ministre Takis Candilis et elle-même devenue présidente de la République de France Télévisions. On va dire ça comme ça. Et puis deuxième point, elle a compris qu'il y avait un shérif dans la ville qui s'appelait Emmanuel Macron, qui avait dit des horreurs sur l'audiovisuel public. Vous vous souvenez, honte de la République. Donc, elle a essayé de corriger tout ça en menant un certain nombre d'actions, le Salto, le nouveau Netflix européen, mais également l'offre jeunesse sur Slash.
Vincent Lavessière, il nous reste 30 secondes, à peine, désolé. Moi, j'ai juste une question, c'est qu'on voit qu'en termes médiatiques, ils font beaucoup moins de, sont beaucoup moins présents que les patrons de la sphère privée. Vous expliquez ça comment ?
Oui, c'est la parole rare contre la, la parole bavarde, parce que cette sphère publique est une chose suffisamment sérieuse et fragile pour qu'on ne prenne pas la parole à tort et à travers, mais qu'on la prenne à bon escient.
Oui, on apprend toujours plein de choses dans vos études. Merci
gentil,
beaucoup
merci.
D'avoir été avec nous, Vincent Lavessière. Donc, Philippe Val, Farandou, Benjamin Smith, Patrick Kane, Lombard, Romanet. Voilà, et que les hommes, enfin les femmes, elles arrivent un petit peu derrière. Allez, merci
hélas.
Beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette RH. On se retrouve bien sûr demain à 8h15 et puis dans le RH. Bonne journée.